Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vous raconte l'enquête sur le meurtre en 2012 dans la région de Pamiers en Ariège du jeune Kevin Cellier, 19 ans. Dans cette histoire, vous trouverez une copine capable de tuer pour 400 balles et un Satanas gothique qui éventrerait des chats. Une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec l'avocat général qui a porté l'accusation au procès en appel à Toulouse, Philippe Renzi. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je vous emmène ramasser des champignons en forêt, en Ariège, à Vic-des-Sauces, dans la région de Pamiers. La scène se déroule un matin de printemps 2012, le 11 mai. Un ramasseur de champignons se promène avec son clébard. Il espère trouver des morilles. Et donc il scrute le sous-bois. Et soudain, le kleps se met à gratter la terre.
Oh, qu'est-ce que tu as ?
Le chien creuse, et apparaît un crâne. Un crâne humain ou animal, difficile à dire. Mais ça ressemble bien à un crâne humain. Alors le gars avertit les gendarmes. Les gendarmes arrivent, ils inspectent le périmètre autour du crâne.
Et regarde ce que j'ai trouvé. Des baskets.
Une paire de baskets à demi enterrées. Et après, ils élargissent le périmètre et sous des branchages, ils tombent sur un squelette. Un squelette humain. Dessus, il n'y a plus une once de chair. Les insectes ont tout dévoré. Ce corps est là depuis longtemps. Arrivent les gars de la scientifique. En fait, il y a de la peau sur les os. De la peau collée. Le squelette est comme momifié. Impossible de dire si c'est un homme ou une femme. Pour le légiste, c'est pas du gâteau, hein, un corps dans cet état. Alors, première chose, il a été battu. Il y a des lésions sur le crâne, là. Vous voyez la mâchoire cassée et le nez cassé aussi. Et puis là, je pense que ce sont des coups de couteau. J'en compte 6 sur la tête, dans le dos. Je pense que ces deux-là, là, ont pu être mortels. Autre chose, vous voyez là, ce corps a été en partie brûlé. Je vais pas pouvoir compter sur la dentition pour l'identifier. Vous voyez, on lui a arraché les dents. Toutes les dents. Regardez. Et c'est pourtant bien la priorité, identifier le mort. On a retrouvé un seul signe distinctif, une bague à l'annulaire de la main droite. Dites-moi, docteur, d'après vous, c'est un homme ou c'est une femme? Ah, c'est un homme, hein. Les os sont caractéristiques. C'est un homme d'1m70, je dirais, de type caucasien. Quel âge? Entre 18 et 25 ans. Faute de mieux, les gendarmes se concentrent sur la bague. C'est une chevalière en vérité, un bijou de pacotille. Mais dessus, il y a un chiffre gravé, 18, et une lettre, K. Ça ne dit rien à personne. Mettons ça de côté. Il va falloir un mois entier pour identifier ce squelette. Grâce à l'ADN et un coup de peau, l'ADN du squelette match avec celui d'un individu enregistré au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Le mort s'appelle Kevin Cellier, 19 ans, un gars du coin. Il est porté disparu depuis un peu moins de 2 mois. Son oncle et sa tante qui l'ont élevé ont signalé sa disparition au commissariat le 24 mars dernier. Kevin vivait chez son oncle et sa tante, les Lafont, à Pamiers, c'est-à-dire à 50 km de Vic-des-Sauces, où le corps a été retrouvé. Les gendarmes viennent leur annoncer la sale nouvelle. C'est comme si on leur annonçait la mort de leur fils. Ce sont eux qui l'ont élevé.
Les parents ne pouvaient pas s'en occuper. Alors ils nous l'ont confié. On l'a élevé comme notre fils. Dites-moi, on peut le voir ?
Non, non, je vous déconseille. 2 mois plus tard, vous vous en doutez, le corps est très abîmé. Vous pouvez me parler de lui, de ce qu'il aimait, de ses amis.
C'était un garçon adorable, un amoureux de la nature. Il aimait la pêche, aller aux champignons. Il était très travailleur aussi.
Il avait une copine ?
Oui, oui, il était amoureux, il nous l'avait présenté.
Évidemment, pour que son ADN se soit retrouvé au fichier des empreintes génétiques, Kevin avait un passé, forcément. Le FNAEC recense les gens qui ont été soit condamnés, soit soupçonnés dans des affaires. Et donc Kevin Cellier était connu pour des vols à l'étalage et pour du trafic de chichons, de cannabis, mais attention, c'était pas Pablo Escobar. Des bricoles, quelques grammes, autant que dans la chambre de beaucoup d'ados de ce pays et de leurs parents. Cela dit, la drogue, ça ouvre une piste. Est-ce qu'il ne serait pas devenu un dealer plus chevronné ? Du coup, est-ce que ça serait pas un règlement de compte lié à la drogue ? Des dettes qu'il n'a pas pu payer. Les dealers du coin sont placés sur écoute. Bon, on est à Pamiers, hein, en Ariège. C'est pas Chicago. Et quoi qu'il en soit, ça ne donne rien. La piste du règlement de compte sur trafic de dope est mise de côté. Intéressons-nous plutôt à ses amis. Les gendarmes identifient rapidement 2 de ses copines, Cindy et Laura. Elles vivent en colocation à Saverdun. Des fêtardes, chez qui beaucoup de jeunes du coin, dont Kevin, passent une partie de leur soirée.
Ça fait 2 mois qu'on n'avait pas de nouvelles. Kevin, il disait souvent qu'il voulait partir vivre en Espagne. Alors comme on le voyait plus, on se disait il est parti là-bas, quoi.
Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois ?
C'était le 20 mars.
Le 20 mars, soit 4 jours avant sa disparition. Au passage, elles ont une sacrée mémoire, les 2 souris. Elles ont sorti la date comme ça, sans hésiter. Et ça n'a pas échappé aux gendarmes, l'expérience. Enfin, quelqu'un qui vous sort une date comme ça, sans regarder son agenda. C'est en général quelqu'un qui a bien réfléchi à ce qu'il va dire. Les 2 gamines ont l'air de s'être concertées. Alors les gendarmes commencent à s'intéresser à ces 2 filles. Et ils s'aperçoivent que le 24 mars, le jour où Kevin a disparu, Cindy Pereira, était avec lui. Son téléphone borne à Vic-de-Sauce, le village où on a retrouvé le corps, à 16h23. Alors il se rencarte sur la donzelle. Elle n'a pas trop le profil d'une meurtrière. Elle a le bac, c'est tout. Et depuis, elle travaille. Femme de ménage, babysitter, serveuse, des petits boulots. Et à côté de ça, elle accompagne souvent sa grand-mère à Lourdes, où elle s'occupe des handicapés. Est-ce que cette fille qui va à Lourdes a un quelconque rapport avec la mort de Kevin ? Cindy Pereira est placée en garde à vue. Et je recommande vivement à la Sainte Vierge de Lourdes de se boucher les oreilles. Parce que c'est elle qui a tué Kevin.
Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais avec mon ami d'enfance, Johan. On est parti faire une randonnée, à Vic-de-Sauce. En partant, j'ai vu Kevin qui faisait du stop sur le bord de la route. Je le connaissais, je l'ai fait monter. On a roulé un peu. Et puis Johan, il m'a dit qu'il avait besoin de faire pipi. Qu'il fallait que je m'arrête.
alors j'ai pris un chemin forestier. Puis on est descendu pour aller faire pipi. Et moi, je suis resté toute seule avec Kevin. Et Kevin, il m'a mis la main sur la cuisse. Il m'a dit, de toute façon, t'es bonne qu'à ça. Elle dit que là, elle a attrapé une pierre par terre et qu'elle lui a donné 3 coups sur le visage. Et que pour se défendre, lui, a attrapé un couteau qui traînait. Il me l'a planté dans le bras. Et il l'a laissé dedans. Et moi, je l'ai enlevé. Et j'ai commencé à lui donner des coups de couteau. Et voilà. Je l'ai tué. Mais je voulais pas, hein. C'est lui qui m'a agressé. Et votre ami, là, Johan, il est où pendant ce temps-là? Il est en train de faire pipi. Il est revenu juste après. Ah ouais, gros pipi, hein. Des problèmes de prostate, peut-être, Johan? Si jeune, c'est assez rare. Admettons qu'elle l'ait tué toute seule. Quand Johan revient de son pipi, qu'est-ce qu'ils font?
Mais Johan, on a décidé de brûler le corps pour s'en débarrasser.
Le brûler comment?
J'avais une bouteille de Watt Spirit dans le coffre. Je m'en suis servi, quoi.
Et qui met le feu?
Moi. Et ensuite, Johan, il m'a aidé à recouvrir le corps de branches.
Et l'arme? Le couteau?
Je l'ai jeté dans une poubelle, avec le portable de Kevin.
Ça se tient. Mais en allant sur place, sur les lieux du meurtre, les gendarmes se disent qu'il y a un truc qui cloche. Et même 2 ou 3 trucs qui clochent.
On est à combien, là? On est à 70 mètres de la route, là. Maximum. Pourquoi est-ce qu'elle est allée si loin? L'autre voulait juste faire pipi. Il pouvait pas faire pipi à l'entrée du chemin?
Autre chose. Elle dit qu'au début, elle a attrapé une pierre par terre pour le frapper.
T'en vois des pierres, toi? J'en vois pas, moi.
Cherche pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que de la terre sur le sol. Et puis les gendarmes fouillent la voiture de Cindy. Elle a été nettoyée de fond en comble. Nickel, la bagnole. Pas un brin de poussière. Et dans le coffre, on trouve bien la bouteille de White Spirit. Et aussi des sacs poubelles. Des sacs poubelles dans le coffre. Remarquez, c'est possible, hein? Vous en avez, vous? Réponse de la miss sur le sujet.
Vous savez, moi, ma voiture, c'est un peu ma maison. J'y stocke beaucoup d'objets dont je peux avoir besoin, quoi.
Et vous y stockez des couteaux, aussi?
Oui. Oui, je suis bricoleuse.
Bricoleuse. Ou alors un assassin? Une fille qui a tué Kevin avec son copain Johan et qui est allée brûler son cadavre au fond d'une forêt. D'autant qu'à la fin de sa confession, la miss en raconte une bien bonne.
Et après vous être débarrassé du cadavre, qu'est-ce que vous avez fait? Après j'ai eu la fringale. Alors avec Johan, on est allé au McDo, à Pamiers.
Rongée par le remords. Elle dit qu'au McDo, elle a croisé sa tatie et qu'elle a échangé quelques mots avec elle. Voilà. C'est fini, elle a tout dit, elle a tout raconté. Et vous avez noté le ton. Un détachement. Pas la queue d'une émotion. Elle pourrait lire l'annuaire, ça serait pareil. Un monstre froid. Et maintenant, qui avez-vous envie d'entendre? Johan. Johan Gamyoshipi. C'est l'ami d'enfance de Cindy. Le voilà en garde à vue. Et finalement, ils ne se sont pas si concertés que ça, parce qu'il raconte une autre histoire. D'après lui, elle avait tout prémédité.
Elle avait emporté exprès l'alcool à brûler. Et puis elle avait pris des bâches pour traîner le corps. Mais moi, je ne le savais pas, ça. Je savais pas ce qu'elle allait faire.
Si ça s'est passé comme ça, si elle voulait le tuer, pourquoi? Les gendarmes découvrent alors que les deux amis se sont embrouillés récemment. Cindy a emmené Kevin chez ses grands-parents et l'autre a barboté une enveloppe contenant 400 euros. Et ça, Cindy, ça lui aurait mis la haine. Surtout qu'elle l'a vu arriver quelques jours plus tard avec des fringues neuves. Ça n'a fait que nourrir sa haine. En tout cas, c'est ce que dit Laura, la colocataire de Cindy.
Mais ça lui est resté en travers de la gorge. Elle m'a dit plusieurs fois, je vais le tuer.
Elle aurait donc tué Kevin pour 400 euros? Mais d'après Cindy, non. Il s'est passé autre chose, qu'elle finit par raconter aux gendarmes.
C'était à peu près 15 jours avant. Un après-midi ou un début de soirée, je sais plus trop. Il y avait du monde à la maison, on faisait une fête. Et puis à un moment, je me suis senti pas bien. Alors je suis allé me coucher. Et là, j'ai fait comme un rêve érotique, si vous voulez. Et puis là, je me suis réveillé. Et Kevin, il était allongé sur moi. Il était en train de me pénétrer.
Autrement dit, un viol. Elle dit qu'elle l'a repoussé, qu'elle s'est réfugiée dans la salle de bain, et que c'est là qu'elle a réalisé qu'elle venait d'être violée. Par Kevin. Un viol, on peut comprendre qu'elle l'ait tué. Aux assises, si Kevin l'a vraiment violée, elle pourra compter sur la compréhension des jurés, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vrai? Elle dit que ce soir-là, ils étaient 12 dans l'appartement. Personne n'a rien remarqué. Or, il n'y a qu'un seul WC dans cet appartement. Il est dans la salle de bain et pour y aller, il faut passer par la chambre. Or, elle dit que ce viol dans la chambre a duré longtemps. Or, dans la pièce d'à côté, il y avait des types, surtout des garçons, qui buvaient de la bière, canette après canette. Si vous avez déjà bu de la bière, vous savez ce que c'est, hein? Au bout de deux canettes, il faut vidanger. Et ce soir-là, personne n'a eu envie d'aller pisser. Personne n'a eu le besoin de traverser cette foutue chambre pour aller pisser. C'est un miracle! Ajoutez à cela que les gendarmes recueillent les confidences d'un ami de Kevin. Il s'appelle Chris.
Je le connaissais bien, moi, Kevin. Il avait du respect pour les femmes, Kevin. Et puis, il avait du respect pour Cindy. Il aurait jamais fait ça. Jamais.
Ça vient s'ajouter au reste. Il y a un gros doute sur ce viol. Un gros doute. Quoi qu'il en soit, Cindy Pereira est mise en examen pour le meurtre de Kevin Cellier. Et elle est placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seyss, près de Toulouse. À part ça, il n'y a pas quelque chose qui vous gêne dans le récit du meurtre? Je sais, ça va faire un peu macho, mais cette histoire, c'est une fille qui tue un garçon. Une fille d'1m55 qui prend le dessus sur un garçon d'1m70. Et elle y va, hein? Deux coups de pierre et 6 coups de couteau. Et puis, des vrais coups de couteau, hein? Puissants, profonds, bam! Rendez-vous compte, il y a des traces de couteau sur les os du squelette. Faut y aller! Alors, est-ce que c'est vraiment elle qui a tué Kevin? Ou est-ce que ça serait pas plutôt Johan, le garçon qui fait pipi très longtemps? Parce que lui, il a le profil. 1m93, 95 kilos, c'est le géant vert. Le teint blafard, les cheveux noirs corbeaux, un long manteau de cuir noir, des bagues à tous les doigts. C'est un gothique, Johan. Et à Pamiers, dans l'Ariège, je vous le dis, il ne passe pas inaperçu. On en raconte des choses sur lui. Il serait sataniste. Il éventrerait des chats vivants. Il se vante aussi d'avoir déjà commis 3 meurtres à Colmar. Et il raconte à tout le monde qu'il est l'heureux propriétaire d'un scorpion égyptien. Il serait détenteur d'un grimoire magique qu'il tiendrait d'un héritage familial. Johan viendrait d'une longue lignée d'empoisonneurs. Joli profil, même si personne n'en croit un mot. C'est un mytho, Johan. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que son univers tourne autour de la mort. Alors, essayons de débrouiller les fils de la vie de ce Johan. L'habit ne fait pas le moine, vous le savez ça. Renseignement pris, figurez-vous que c'est un garçon très intelligent et même brillant. Il est en école d'ingénieur à Toulouse et interne au lycée Déodat de Sévrac. Ses parents ne sont pas des empoisonneurs, ils sont tous les deux infirmiers psychiatriques. Johan fait de la musique, je vous dispense d'un extrait. Il aime la nature et la randonnée. Ses copains l'appellent l'intello. Comprenez qu'il n'est pas comme eux. Et du coup, il est un peu leur tête de turc. Et il semble que c'est pour ça qu'il est devenu gothique. Pour avoir l'air plus cool, moins intello. Mais tous disent qu'à un moment, il s'est mis à dégoiser.
Il faisait tout pour qu'on le prenne pour un serial killer.
Une semaine avant le meurtre de Kevin Cellier, il aurait dit à ses copains
« Cindy, à mon anniversaire, elle va me faire un cadeau. Elle va tuer quelqu'un. Vous inquiétez pas, hein. Il voit rien, le type. Et il a eu des problèmes avec la justice. »
Eh oui, il a parlé, Johan. Beaucoup parlé. Il a dit à ses copains que son plan était un plan à la Dexter, vous savez, la série américaine qui met en scène un serial killer. Il a dit aussi qu'il avait acheté du matériel, des cordes et du white spirit. Et après le crime, il a raconté à ses copains qu'il l'avait eu, son cadeau. Sur le moment, ils ne l'ont pas cru. Mais maintenant, là, face aux gendarmes, ils se disent « Oh, c'est dingue !»
Il m'a dit qu'il avait endormi la victime avec un produit anesthésiant en arrivant sur le chemin forestier. Et il m'a dit aussi qu'il lui avait défoncé les dents à coups de marteau. Et puis, il a dit qu'il lui avait enlevé l'œil avec une petite cuillère.
Le problème, c'est que Johan, interrogé là-dessus, nie tout. Il maintient que c'est Cindy qui a tout fait, que lui n'était que spectateur. Il ne reviendra jamais là-dessus. Les gendarmes réinterrogent Laura, la colocataire de Cindy. Et Laura leur raconte que récemment, Cindy s'est confiée à elle.
Mais un soir, on regardait la télé avec Cindy. Elle n'avait pas l'air bien. Et quand je lui ai demandé ce qui allait pas, elle m'a dit que Kevin ne reviendrait pas. Parce qu'elle l'avait tué avec Johan. Elle m'a parlé d'un produit avec lequel ils avaient tenté de l'endormir. Et puis elle m'a dit qu'ils lui ont donné des coups de marteau. Que Kevin avait tenté de s'enfuir et qu'il l'avait fini.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit sur le motif et sur les raisons de ce meurtre?
Le vol? Le vol des 400 euros? Elle a dit que c'est elle qui a eu l'idée du meurtre, mais qu'elle savait aussi que Johan, il était intéressé à tuer quelqu'un. Il disait qu'il voulait voir comment ça faisait.
Le dossier va partir aux assises comme ça, sans qu'on sache vraiment qui a fait quoi. Au juré de se débrouiller. Quatre ans après les faits, le procès s'ouvre le 26 mars 2016 devant la cour d'assises de l'Ariège à Foix. Johan Gamiochipi compare libre. Le juge a estimé qu'il n'avait pas assez de charges contre lui pour le placer en détention provisoire. Il arrive dans la salle d'assises, il est métamorphosé. Il est en costard. Et il est au bras de sa petite amie, une belle blonde. Et vas-y que je te galoche devant tout le monde. C'est pas finaud de faire ça, quand on est accusé de meurtre. Sa famille est là, pour le soutenir. Enfin, il manque son père. Son père s'est suicidé quelque temps après sa garde à vue. Cindy, elle, est en prison depuis 4 ans. Et quand elle entre dans le box, il n'échange pas un regard. Et dès la première minute de la première audience, coup de théâtre, dans le box, Cindy prend le micro.
Je voudrais dire que j'ai dit au juge que c'était moi qui avais tué Kevin. C'est pas vrai.
C'est Johan qui a tout fait. Moi, j'ai rien fait. J'ai pas donné un seul coup. C'est une énorme surprise. Parce que pendant toute l'instruction, Cindy a assumé le meurtre de Kevin. Johan, qui n'est pas dans le box, réplique immédiatement.
N'importe quoi! Elle mange! J'ai rien fait, c'est elle qui a tout fait!
Et on en revient à l'enjeu de ce procès. Qui croit? Les experts psychiatres vont nous aider et aider les jurés. Concernant Cindy Pereira, ils disent
« C'est une fille fragile. Et j'avoue que je m'explique assez mal comment elle a pu avoir un tel comportement meurtrier. »
En revanche, concernant Johan Gamiochipi,
« C'est une personnalité totalement dénuée d'empathie, cruelle, qui jouit de sa cruauté envers autrui. C'est ce qu'on appelle un sociopathe, un pervers. »
Et il est relevé au passage que depuis des années, Johan, à travers les jeux en réseau, vit dans un monde virtuel. Et on apprend aussi qu'en matière de lecture, il ne lit plus que Machiavel. L'idée générale qui se dégage du procès, c'est que Johan, par l'ascendant qu'il avait sur Cindy, a entraîné Cindy dans cette histoire. Mais à la fin, les jurés ne ressentent pas le besoin de les départager. Ils les condamnent, tous les deux, à 25 ans de réclusion criminelle. Et Johan, qui était arrivé triomphant au palais de justice, le quitte en panier à salade. Ils font appel, bien sûr. Ils sont rejugés en novembre 2017 à Toulouse. Et là, le verdict consacre Johan en leader du meurtre de Kevin. Il prend 25 ans et Cindy un peu moins, 22 ans. Et nous, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Kevin est mort parce que Cindy avait la haine ou parce que Johan s'est perdu dans un monde parallèle? Qui a fait quoi? Ça reste un mystère. Passionnante affaire criminelle que nous allons débriefer maintenant avec Philippe Renzi. Vous étiez avocat général au procès en appel à Toulouse. Vous êtes aujourd'hui, je le signale, avocat général à Nancy. On a donc ce deuxième verdict qui est intéressant, parce qu'autant le premier finalement ne départageait pas l'un et l'autre, le deuxième verdict consacre le rôle de leader de Johan, qui prend 25 ans alors que Cindy en prend 22. Vous aviez requis quoi, vous? Quelle était votre conviction quant à la responsabilité de l'un et de l'autre?
Alors moi j'avais requis 25 ans pour les deux, exactement la même peine que celle que j'avais requise à Foix et qui a été prononcée donc en première instance. Mais les jurés ont estimé que l'emprise de Johan devait l'emporter et qu'effectivement c'était un peu lui le leader. Il faut dire également que l'attitude de Cindy était différente lors du second procès, et qu'elle a beaucoup plus assumé, effectivement, que ce qu'elle avait pu dire à Foix lors du premier procès, avec des regrets manifestes sur ce qui s'était passé.
Alors que lui ne bouge pas, quoi.
Alors que lui ne bouge pas, est toujours figé dans sa position. Je n'ai rien fait, c'est entièrement Cindy qui est responsable de cela. Je ne lui ai même pas donné un coup de main à tuer Kevin.
Quoi qu'il en soit, c'est un meurtre sans préméditation. Ça n'est pas un assassinat. C'est ce que dit par deux fois le jury d'assises.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils n'ont pas considéré qu'il y avait une préméditation, bien qu'on a pu avoir dans le dossier des éléments un peu particuliers, notamment le transport de produits de White Spirit. Certains experts nous ont dit aussi, lors des deux procès, que le corps n'avait pas été brûlé comme cela et qu'il avait fallu un produit type soude caustique pour désintégrer les viscères et désintégrer effectivement le corps de Kevin. Donc on a eu quelques doutes à ce sujet. On pouvait presque partir en assassinat, mais on a considéré que c'est plutôt quelque chose qui avait dégénéré en cours de trajet.
Alors quelle est votre conviction à vous au moment de votre plaidoirie à la fin, qui est le cerveau de ce meurtre, qui est le vecteur déclenchant, qui est le suiveur. Comment ça se passe? Quel scénario est-ce que vous vous faites?
Moi, je pense que Johan est celui effectivement qui est le leader et qui effectivement va jusqu'au bout des choses. Et c'est lui en tout cas qui pense comment faire, puisque moi j'ai la conviction que ce que dit Laura est la vérité, c'est-à-dire qu'effectivement en voiture ils ont essayé d'endormir Kevin. Pour le faire parler, pour essayer effectivement peut-être de mettre à jour cette histoire de vol oui. qui autant le viol les jurés n'y ont pas cru, autant le vol des 420 euros au préjudice des grands-parents de Cindy, je crois que ça les jurés ils ont été assez sensibles à tout cela.
Donc ils en parlent dans la voiture.
Je pense qu'ils en parlent dans la voiture. Et que là, effectivement, puisqu'il y a ces produits de chloroforme, notamment pour essayer d'endormir Kevin. Mais Kevin ne se laisse pas endormir aussi facilement, puisque, comme ça a été indiqué, c'est quelqu'un qui a l'habitude, hein, qui a un peu vécu dans la rue, qui sait un peu se battre. Hein. C'est pas quelqu'un d'une violence inouïe, mais il se laisse pas faire. Et à ce moment-là, effectivement, il faut passer à la vitesse supérieure. Et je pense qu'à ce moment-là, quand ils sortent de la voiture et que Kevin, peut-être un peu assommé, mais ne se laisse pas faire, là, effectivement, il faut employer le couteau, utiliser une arme létale, et à ce moment-là, ils sont deux pour passer à l'acte. Et puis ensuite, il faut essayer de faire disparaître le corps. Je pense que c'est comme ça que les choses se sont passées, le déroulement, la chronologie des faits, moi je l'ai expliqué comme ça au juré.
Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le personnage de Johan, parce qu'il y a donc ces rumeurs relayées par des gens de Pamiers, selon lesquelles il serait gothique, il aurait tout un tas, il aurait éventré des chats, il aurait un scorpion égyptien, il aurait déjà tué. Quel type de bonhomme est-ce que c'est? Alors quand il est devant vous, évidemment, il n'est plus du tout gothique, il est en costume. Mais est-ce qu'il est bizarre? Est-ce qu'il y a cette dimension mystique chez lui ou pas? Ou est-ce que tout ça c'est mytho?
Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, quand il comparaît devant la cour d'assises, il n'est pas du tout. Il n'a pas du tout ce long manteau, il n'est pas du tout gothique, il n'a plus les bagues, il arrive en costume effectivement lors du premier procès notamment, parce qu'il est persuadé qu'il repartira libre. Il est persuadé qu'effectivement toute la culpabilité va peser sur Cindy. Alors ceci étant, quand tous ses camarades de prépa, qui défilent à la barre des témoins et disent « mais voilà comment il était, voilà ce qu'il nous a dit ». Il s'étonnait d'ailleurs que l'enquête n'avance pas plus vite. Il pensait que les gendarmes étaient absolument nuls, incompétents. Et tous ses copains de classe disent « mais voilà, c'est quelqu'un effectivement qui aime le morbide, qui aime la mort, qui vit avec et qui a cet aspect-là ».
Et les gendarmes n'y ont pas cru.
Les gendarmes n'y ont pas cru, en tout cas immédiatement. Ce qui est assez surprenant, et moi ce qui a assis ma conviction que effectivement Johan est véritablement le co-auteur, ou en tout cas est auteur de ce meurtre, c'est qu'en fait, lorsqu'il raconte à ses copains les dents cassées à l'aide du marteau, et lorsqu'il explique effectivement tout cela et comment ils ont fait pour essayer de dissimuler le corps, et comment les coups notamment portés par Cindy, les coups de couteau, tout cela, il ne peut pas le savoir puisqu'il n'a pas eu encore accès ni son conseil au dossier. Donc il raconte des éléments qui s'avèrent véritables et vrais ensuite, que les experts ont déterminés.
Donc Johan, il participe à tout ça. Cindy, au fond, a un compte à régler à cause des 420 euros. Et Johan, il participe à tout ça parce qu'il veut voir ce que ça fait de tuer, quoi.
Voilà. En gros. Voilà, je pense qu'effectivement, ils se sont retrouvés, chacun pour des motifs différents et distincts, mais ils se retrouvent là pour commettre effectivement l'irréparable et sur la personne de Kevin.
Le viol, vous en avez dit un mot tout à l'heure, vous n'y croyez pas? Les deux viols, en vérité.
Le viol, non, le viol, je n'y crois pas. Est-ce que la personnalité de Cindy, est-ce que Cindy a pu envisager cela à un moment donné, une sorte plus de rêve érotique? Quand elle est allongée, elle peut s'imaginer un certain nombre de choses, parce que c'est quelqu'un qui consommait aussi pas mal de résine de cannabis à l'époque, avec ses copains. Mais le viol, non, ça paraît strictement impossible, compte tenu de la configuration des lieux.
Les parties civiles. L'oncle et la tante de Johan, ils défendaient une thèse. Ils voulaient que l'un soit plus coupable que l'autre. Qu'est-ce qu'ils disent, eux?
Surtout, ce qu'ils auraient voulu connaître et savoir, c'est la vérité. C'est savoir qui a fait quoi. Parce que ces deux verdicts laissent un goût d'amertume. Parce que, effectivement, Cindy, pendant toute l'information judiciaire, et ça a été indiqué, a pris sur elle et a dit effectivement « j'ai tué Kevin ». Ensuite, coup de théâtre lors du premier procès à Foix, où effectivement elle dit « mais c'est Johan qui a tout fait ». Et les jurés se sont dit « il y a une co-responsabilité, il y a une co-culpabilité des deux », en pensant quand même que Johan, effectivement, est plus impliqué, est celui qui en tout cas, voulait aller au bout des choses. Et que ça se termine effectivement par la mort de Kevin, un cadavre, et puis un cadavre qu'on fait disparaître. Mais voilà, les jurés ont effectivement, je pense, admis cette thèse qu'il y a une co-culpabilité. Alors, les parents de Kevin auraient voulu avoir plus de précision, et notamment, je pense, de la part de Johan.
Oui. Et ils n'ont rien eu, en vérité. Ils ne savent rien de ce qui s'est passé. S'ils savent, au fond, ce que leur dit le médecin légiste.
Voilà. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que je me souviens d'une phrase de la mère de Kevin qui effectivement dit « mais moi ce que j'aurais voulu savoir, c'est la vérité, parce que j'ai l'impression qu'on a tué deux fois mon fils. Mmh. » Qu'effectivement, on l'a tué parce que y a son cadavre, et puis qu'on lui devait cette vérité qu'on n'a pas pu avoir, en tout cas de façon plus certaine.
Pour expliquer le deuxième verdict qui consacre le rôle de Johan, supérieur à celui de Cindy, je me disais que sans doute les expertises psychiatriques avaient beaucoup compté, parce que tout de même, les experts psychiatres disent deux choses. Ils disent concernant Cindy, bon, on n'a pas d'explication, on comprend pas pourquoi cette fille a tué. En revanche, ils disent de Johan Gamyoshipi que c'est un sociopathe, que c'est un pervers, qu'il est dénué d'empathie, qu'il est cruel, qu'il jouit de sa cruauté envers autrui. Ça, c'est terrible pour lui.
Ah oui. Oui, c'est absolument une sentence de la part des experts qui effectivement à la barre ont décrit cette personnalité. Et là, je me souviens de Johan qui effectivement balançait la tête, prête à rugir, à rebondir en disant « mais je ne suis pas cette personnalité-là ». Ceci étant, tous les experts se sont accordés sur ce type de personnalité, effectivement, une psychorigidité, voilà, une personnalité dénuée totalement d'empathie.
Pas t'es pervers, alors qu'elle, on dit, on sait pas vraiment pourquoi elle est passée à l'acte, ça consacre que c'est lui qui mène la barque.
Oh, tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est lui qui recontacte Cindy, d'ailleurs, effectivement, bien avant les faits. C'est curieux, cette association de deux personnalités très différentes.
On n'a jamais su s'il l'avait commis, parce que je note que dans le motif de renvoi devant la cour d'assises et dans le motif de condamnation, il n'est pas fait état d'acte de barbarie. On n'a jamais su s'il l'avait vraiment arraché l'œil avec une petite cuillère.
Non, ça n'a pas pu être déterminé. Les dents cassées, oui. Ça a été établi, et post-mortem, c'est-à-dire effectivement une fois que Kevin a été tué.
Je vous remercie beaucoup, Philippe Renzi. Je rappelle que vous avez été avocat général dans ce dossier, que vous avez porté l'accusation. C'est toujours intéressant de parler avec les avocats généraux, parce qu'on peut le rappeler au passage, monsieur Renzi, des gens qui jugent dans la cour d'assises, il n'y a que deux personnes, en dehors des avocats évidemment de la défense et des parties civiles, qui ont lu le dossier. C'est vous ? Vous y passez combien de temps pour un dossier d'assises comme ça ?
Un dossier comme celui-là, j'ai passé un peu plus d'une semaine.
À lire le dossier d'un bout à l'autre, toutes les pièces.
À lire le dossier d'un bout à l'autre.
Il y a vous et le président de la cour d'assises, ses assesseurs ne l'ont pas lu, et les jurés, bien entendu, n'ont pas lu le dossier. Faisons un peu de pédagogie au passage. Merci beaucoup, Philippe Renzi.
Merci à vous également.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.